Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du jeudi 14 décembre 2023. Avec vous, Eric Mandakiza. D'abord les titres. Les États-Unis sont prêts à reprendre leur coopération avec le Niger, mais sous condition, notamment le retour à la démocratie à Niamey. 25 ans après l'assassinat de Norbert Zongo, la quête de justice persiste au Burkina Faso, portée par le Centre national de presse et la mobilisation de la société civile.
Ça fait un quart de siècle que Norbert Zongo a été assassiné. Un quart de siècle, donc 25 ans que nous courons toujours derrière la justice. Et pour Norbert Zongo, nous n'avons toujours pas cette justice-là. On avait espéré que ce procès allait avoir lieu avant les 25 ans. Les 25 ans sont bouclés, il n'y a toujours pas de procès, il n'y a toujours pas de justice pour Norbert Zongo.
Usage de gaz lacrymogène par la police bissao-guinéenne pour disperser des députés de l'opposition, défiant la dissolution de l'Assemblée nationale. Grève des enseignants au Tchad, tensions persistantes, écoles fermées et refus du gouvernement de payer des salaires pour décembre. L'OACR contraint à réduire ses effectifs face au manque de financement, malgré la multiplication des crises humanitaires dans le monde. Le Congrès américain ouvre formellement une enquête en destitution du président Joe Biden liée aux affaires de son fils à l'étranger. Accord historique à la COP 28, les pays du monde s'engagent à l'abandon progressif des énergies fossiles. Nous aurons la réaction des organisations environnementales en Afrique. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Les États-Unis ont annoncé être prêts à reprendre leur coopération avec le Niger, mais le régime militaire arrivé au pouvoir après le coup d'État doit s'engager en faveur d'une transition rapide et crédible, a affirmé la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines lors de sa visite à Niamey. Le point avec Lionel Lunanira Gahima.
Les États-Unis ont exprimé leur disposition à renouer leur coopération sous certaines conditions avec le régime militaire en place depuis le coup d'État de juillet. La secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines a visité Niamey et rencontré des responsables soulignant la nécessité d'une transition rapide et crédible vers un gouvernement démocratiquement élu pour rétablir la coopération. Malgré la proposition des militaires pour une transition maximale de 3 ans, les sanctions économiques imposées par la CEDEAO suite au coup d'État demeurent conditionnées à une transition brève. Madame Phi a exprimé la volonté de trouver une résolution adéquate pour l'ex-président, sa famille et ses collaborateurs. Depuis le coup d'État, Mohamed Bazoum est assigné à résidence avec sa femme et son fils, tandis que d'anciens dignitaires sont arrêtés ou enfouis. Les États-Unis, en accord avec les résolutions de la CEDEAO, encouragent activement le régime militaire à se conformer à ses exigences pour une éventuelle levée des sanctions économiques et financières.
Les Tchadiens se prononceront dimanche par référendum sur une nouvelle constitution, une étape vers des élections promises, puis repoussées par une junte au pouvoir depuis 2021. Une frange de l'opposition tenante du non prône plutôt le fédéralisme. Le oui semble assuré de l'emporter. Le pouvoir mène une campagne à gros moyens qui écrase celle du non et il peut compter sur le ralliement d'un des principaux opposants jusqu'alors, Succès Mastra, face à une opposition divisée. Les résultats officiels seront proclamés le 28 décembre selon le calendrier du gouvernement. La police en Guinée-Bissau a fait usage de gaz lacrymogène à Bissau mercredi pour disperser des députés de l'opposition. Ces derniers tentaient de siéger en dépit de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Omaru Sissoko Embalo. Davantage avec Alexandrine Rologne.
Les législateurs de la majorité, avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, Domingo Simoes Pereira, ont tenté d'accéder au siège de l'institution, mais ont été violemment pris à partie par les policiers. « Ils nous ont dispersés au gaz lacrymogène, mais nous ne céderons pas », a déclaré Armando Mango, membre de la coalition du PAIGC. Le président Embalo a dissous l'Assemblée nationale la semaine dernière, l'accusant de passivité concernant la fusillade du 1er décembre, décrite par le leader bissao-guinéen comme une tentative de coup d'État. La coalition du PAIGC qui a remporté les législatives de juin a rejeté la décision du président Mbalo, citant un article de la Constitution selon lequel l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute moins d'un an après des législatives. Sous le système politique bissau-guinéen, la majorité parlementaire forme le gouvernement, mais le président de la République peut le dissoudre sous certaines circonstances.
En raison d'un manque de fonds, l'agence de l'ONU pour les réfugiés est contrainte de réduire ses dépenses. L'OHCR prévoit la suppression de 900 postes, une mesure survenue alors que les crises humanitaires se multiplient à travers le monde, exacerbées par les conflits et le changement climatique. Jean-Roger Bion pour les détails.
Malgré l'ampleur de la crise à Gaza, la communauté internationale ne doit pas oublier les dizaines de millions de déplacés dans le monde, a plaidé le haut commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi, à l'ouverture du Forum mondial sur les réfugiés qui se tient jusqu'au 15 décembre à Genève. Son organisation a encore besoin de 400 millions de dollars d'ici la fin de l'année, un manque de fonds que le HCR n'a pas connu depuis des années. Guerre en Ukraine, conflit au Soudan, en Éthiopie, crise humanitaire en Afghanistan, les crises se multiplient. Selon le HCR, plus de 114 millions de personnes étaient déplacées à la fin de septembre dans le monde, un record. Pendant le forum de Genève, les États sont appelés à annoncer de nouveaux engagements pour partager les charges et responsabilités face à la crise des réfugiés. Les États-Unis, premier contributeur du HCR, vont continuer à fournir un financement humanitaire robuste alors qu'il y a des niveaux de déplacement sans précédent à l'échelle mondiale, a assuré pour sa part la sous-secrétaire d'État américaine pour la sécurité civile, Ouzra Zeya, annonçant que son pays allait prendre 26 engagements pour aider les réfugiés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Congrès américain a approuvé hier mercredi l'ouverture formelle d'une enquête en destitution de Joe Biden, motivé par des allégations liées aux activités commerciales controversées de son fils à l'étranger et qualifiées de combines politiques sans fondement par le président Biden. Claire Morizubourg.
Les républicains majoritaires à la Chambre des représentants accusent le président démocrate d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama pour permettre à son fils de faire des affaires en Chine et en Ukraine. James Comer, chef de la commission d'enquête, a accusé Joe Biden d'avoir menti de façon répétée aux Américains. Une première audition parlementaire avait été organisée sur le sujet fin septembre. Les experts interrogés avaient affirmé que rien ne permettait de justifier une mise en accusation du président. Hakeem Jeffries, chef démocrate à la Chambre, a dit hier que rien ne prouve un quelconque acte répréhensible de M. Biden. Le président de la Chambre, le républicain Mike Johnson, a estimé quant à lui qu'il était temps d'apporter des réponses aux Américains. Le fils du président, Hunter Biden, inculpé par la justice dans deux dossiers, a reconnu lors d'une conférence de presse avoir fait des erreurs dans sa vie, tout en affirmant que son père n'avait jamais été impliqué financièrement dans ses affaires. Il a refusé de participer à une audition à huis clos organisée par les républicains hier. La Constitution américaine dit que le Congrès peut destituer le président en cas de trahison, corruption ou autre crime et délit majeur. Les présidents mis en accusation jusqu'ici, Andrew Johnson, Bill Clinton et Donald Trump par deux fois, ont tous été acquittés. Richard Nixon avait démissionné pour éviter une destitution certaine en raison du scandale du Watergate.
Dans la foulée, Hunter Biden, le fils du président américain, a tenu une rare conférence de presse pour dédouaner son père de toute implication dans ces affaires controversées, scrutées à la loupe par l'opposition républicaine. Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible, mon père n'a jamais été impliqué financièrement dans mes affaires, a-t-il déclaré devant le Congrès américain. Hunter Biden, ancien homme d'affaires de 53 ans, est devenu une cible privilégiée de la droite américaine. Il a accusé les Trumpistes d'avoir tenté de le déshumaniser pour nuire à son père. Hunter Biden a refusé pour cette raison de participer à une audition à huis clos organisée par les Républicains qu'il avait assigné à comparaître au Capitole mercredi. Israël multiplie ce jeudi les raids aériens dans la bande de Gaza en dépit des signes d'impatience de son allié américain qui dépêche à Jérusalem son conseiller à la sécurité nationale. Tout arrangement à Gaza ou concernant la cause palestinienne sans le Hamas ou les mouvements de résistance est une illusion, a déclaré dans un discours télévisé Ismaël Haniyeh, chef du Hamas basé au Qatar, se disant prêt à des discussions sur une voie politique qui assurera le droit des Palestiniens à un État indépendant avec Jérusalem pour capitale. En revanche, le premier ministre israélien Netanyahou a lui promis de poursuivre le combat contre le Hamas jusqu'à la victoire. Sans remettre en cause leur soutien à l'opération israélienne, les États-Unis commencent à s'exaspérer du bilan des victimes dans la bande de Gaza, le président Joe Biden évoquant des bombardements aveugles et une possible érosion du soutien occidental à Israël. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco avec Rosine Mounedze.
La Somalie va bénéficier d'un plan de réduction d'endettement de 4,5 milliards de dollars auprès des créanciers internationaux portant sur le service de sa dette, a annoncé mercredi le Fonds monétaire international dans un communiqué. Le FMI et les autres institutions indiquent avoir déterminé que la Somalie a fait des progrès satisfaisants pour répondre aux exigences nécessaires afin d'atteindre le point d'achèvement PPTE. Plusieurs experts du digital et de la fonction publique au Togo ainsi que ceux de la Banque mondiale se sont réunis mardi dans le cadre des échanges de haut niveau sur la manière de soutenir la digitalisation des économies en Afrique. Selon Togo First, la rencontre a notamment permis au ministre chargé de la digitalisation au Togo de revenir sur les ambitions du pays et les perspectives en matière de digitalisation, notamment en soutenant les start-up technologiques. Les États-Unis se sont félicités mercredi d'avoir conclu cette année des accords commerciaux records avec l'Afrique d'un montant total de 14,2 milliards de dollars dans un contexte de lutte d'influence avec la Chine sur le continent. Près de 550 nouveaux accords commerciaux et d'investissement ont été signés, représentant une augmentation de 67% par rapport à 2022. Washington s'est engagé en décembre à investir 55 milliards de dollars sur 3 ans en Afrique.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Lionel Lunanilagahima. Bonjour Lionel.
Bonjour Eric.
En Ligue des Champions, les 16 qualifiés pour les 8e de finale sont connus.
Tout à fait Eric. Le Paris Saint-Germain s'est difficilement qualifié ce mercredi grâce à un match nul contre le Borussia Dortmund, un but partout, et évite de justesse une élimination précoce. L'Espagne comptera 4 représentants, tous premiers de leur groupe, Real Madrid, FC Barcelone, Atlético Madrid et Real Sociedad. Dans le groupe G, le classement maintient Manchester City et Leipzig. Arsenal, Bayern Munich, Copenhague, Inter Milan, Naples, Porto et PSV Eindhoven complètent la liste des qualifiés. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 8e de finale. Le 3e de chaque groupe affronte un 2e de groupe de Ligue Europa lors d'un barrage aller-retour dont le vainqueur sera qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa.
En NBA, LeBron James est absent du premier match face aux Spurs de Wembanyama.
La superstar NBA, LeBron James, touché à un mollet, ne va pas disputer le premier match de Los Angeles Lakers face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, annonce son équipe mercredi à quelques minutes du coup d'envoi. À bientôt 39 ans, le 30 décembre, toujours au sommet de son art, King James a remporté samedi la première coupe NBA à Las Vegas avec les Lakers, puis a enchaîné avec une défaite à Dallas mardi soir.
Toujours en NBA, Lionel, Draymond Green des Warriors est suspendu indéfiniment après un nouveau mauvais geste.
L'ailier fort des Golden State Warriors, Draymond Green, a été suspendu indéfiniment par la NBA mercredi après avoir frappé mardi soir le pivot de Phoenix, Yusuf Nurkic,
annonce la Ligue. Green, 33 ans, quadruple champion NBA avec les Warriors, a multiplié les mauvais gestes au cours de sa carrière et avait déjà été suspendu 5 matchs pour avoir étranglé le Français Rudy Gobert mi-novembre. Cette décision prend en compte l'histoire des actes antisportifs de Green, écrit la NBA dans son communiqué, précisant que le joueur va devoir remplir certaines conditions données par la Ligue avant de pouvoir rejouer.
Page des sports avec Lionel Lunaniragahima.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kizado, retour avec vous pour les dossiers du jour. La secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molly Fee, a conclu mercredi sa visite à Niamey. Cette visite intervient peu après le sommet de la CEDEAO qui a maintenu les sanctions imposées au pays depuis le coup d'État militaire. Au cours de sa visite, elle a rencontré le Premier ministre de transition ainsi que des membres de la junte, les exhortant, conformément aux exigences de la CEDEAO, à présenter un calendrier pour un retour rapide à la démocratie. Reportage de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Thank you for joining me here today.
Les États-Unis d'Amérique sont préoccupés par l'arrêt des relations entre le Niger, ses voisins ouest-africains de la CEDEAO et ses partenaires internationaux, selon Molly Fee. C'est la raison pour laquelle elle a tenu, après avoir pris part en tant qu'observatrice au sommet de la CEDEAO tenu le week-end dernier à Abuja au Nigeria, à venir à Niamey discuter avec les nouvelles autorités du pays.
J'ai exprimé la préférence des États-Unis. J'encourage le CNSP de répondre positivement à l'offre de la CEDEAO pour une négociation. C'est ma compréhension qu'il y aura une réaction positive à cet engagement des États-Unis. Nous espérons qu'il y aura une résolution rapide entre le CNSP et les pays mandatés par la CEDEAO pour les négociations.
Au cours de ces échanges avec les autorités du CNSP, il a été question, selon elle, de la coopération entre le Niger et les États-Unis, suspendue par ces derniers du fait des événements du 26 juillet.
Dans nos discussions, j'ai confirmé la position des États-Unis pour la reprise de la coopération militaire et du développement en phase, d'une manière réciproque, quand le CNSP va prendre les actions que j'ai citées.
Molly Fee a été interrogée par les journalistes sur l'option des nouvelles autorités nigériennes de nouer des accords avec d'autres partenaires. Elle a rappelé en réponse ce qu'ont été ses déclarations au CNSP à ce propos.
J'ai été clair avec le CNSP que nous voulons encore être des bons partenaires et le CNSP aussi doit être des bons partenaires pour les États-Unis. Nous voulons voir un respect de nos valeurs communes et pour la politique et les intérêts des États-Unis.
Merci.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Il y a 25 ans, le journaliste d'investigation burkinabé Norbert Zongo a été assassiné aux côtés de trois de ses compagnons au Burkina Faso le 13 décembre 1998. Le Centre national de presse qui honore sa mémoire poursuit son combat pour obtenir justice en son nom. Les organisations des professionnels de médias et de la société civile demeurent également engagées dans cette quête, comme nous l'explique notre correspondant Lamine Traoré depuis Ouagadougou.
Ici au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, des images exposées montrant l'horreur le 13 décembre 1998, l'assassinat du journaliste. Un véhicule 4x4 calciné avec à bord ses occupants, dont le journaliste Norbert Zongo, principal inculpé, François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Malgré le mandat d'arrêt international, François Compaoré court toujours. Il est en France. Les organisations de la société civile exigent son extradition immédiate. Elle s'adresse au président français depuis l'ambassade de France à Ouagadougou. Ghislaine Dabiré, un porte-parole.
Monsieur le président, cette orchestration mécanique que vous faites en complicité avec les organes de l'Union européenne pour retarder à souhait l'extradition de M. François Compaoré a fini par épuiser le temps de patience de notre peuple. Par conséquent, il me plaît d'exiger par la présente l'extradition du Sieur François Compaoré dans les plus brefs délais pour éviter de pousser notre peuple à une colère.
Ici au cimetière, des journalistes demandent aussi l'extradition de François Compaoré pour la manifestation de la vérité. Gezouma Sanogo, président de l'association des journalistes du Burkina.
François Compaoré refuse de se soumettre à la justice malgré le mandat d'arrêt délivré contre lui. Pour cause, le 7 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme s'opposait à l'extradition de François Compaoré. La raison invoquée, je cite, le second gouvernement de transition, c'est-à-dire donc le régime des impresseurs du capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas retiré les garanties d'une bonne justice au cas où François Compaoré serait extradé. Combien de temps les Burkinabés devront-ils encore patienter pour que justice leur soit rendue?
Pour cette commémoration, plusieurs activités sont au programme allant dans le sens de réclamer justice pour les journalistes et ses compagnons. Abdoulaye Diallo est le coordonnateur du Centre National de Presse Norbert Zongo.
Ça fait un cas de siècle que Norbert Zongo a été assassiné. Un cas de siècle dont 25 ans que nous courons toujours derrière la justice pour Norbert Zongo. Nous n'avons toujours pas cette justice-là. On avait espéré que ce procès allait avoir lieu avant les 25 ans. Les 25 ans sont bouclés, il n'y a toujours pas de procès. Il n'y a toujours pas de justice pour Norbert Zongo. Et on espère que, avec la nouvelle année qui s'ouvre, on ne va pas arriver au 26e anniversaire sans qu'il y ait eu le fameux procès Norbert Zongo, même si certaines personnes doivent être condamnées par contumace.
En février 2020, le gouvernement français a autorisé l'extradition de François Compaoré, principal inculpé dans l'assassinat de Norbert Zongo. En septembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme s'est opposée à l'extradition. Mais ici, au Centre national de presse Norbert Zongo, on pense qu'un jugement aura bientôt lieu. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La grève des enseignants au Tchad immobilise les établissements du niveau primaire à l'université. Leurs revendications portaient sur le remboursement des salaires amputés en 2016 et la mise en œuvre intégrale du pacte social de 2022. Malgré des tensions persistantes, les écoles publiques demeurent fermées et même des établissements privés expriment leur solidarité. En réponse, le gouvernement annonce qu'il retiendra le salaire du mois de décembre des enseignants en grève. La correspondance de André Kodmajingar depuis N'Djamena.
C'est depuis un mois et demi que les élèves des établissements d'enseignement public de certaines villes du Tchad tournent en rond, et cela suite à la mauvaise gestion de la grève lancée par le CET, le syndicat des enseignants du Tchad, pour exiger le rétablissement des salaires du mois d'octobre des enseignants suspendus. La base a désavoué les responsables du CET qui ont appelé à la reprise des cours et a mis en place un comité de crise. Le comité durcit sa position en poursuivant la grève pour exiger le remboursement des salaires coupés depuis 2016 dans le cadre des mesures d'austérité.
Nous voulons rappeler ici qu'en situation de grève, les grévistes ne peuvent pas prétendre à un salaire et le gouvernement a décidé en toute légalité de ne plus verser des salaires aux grévistes qui suivent les mots d'ordre du comité de crise.
Martin Inoua Doulgué, porte-parole de la primature, autrement dit que le comité de crise cherche de l'argent pour payer les enseignants qui ont suivi son mot d'ordre de grève, et ce, en dépit de la charge de transition révisée qui stipule que le droit de grève est garanti à tous et s'exerce conformément à la loi. Dumoudel Faustin, président du comité de crise.
Tous les deux, c'est-à-dire Kebzabo et Inoua, n'ont jamais été fonctionnaires, moins encore syndicalistes. Alors, ils ont raison de méconnaître la législation du travail.
Ils mettent en garde le chef d'établissement d'enseignement public qui font pression sur les grévistes à reprendre le travail.
Tout ce qui oblige les enseignants à reprendre les cours contre leur volonté, en faisant les listes, ceux-là après avoir trouvé solution au problème actuel, nous allons demander leur départ avant toute reprise.
Le porte-parole de la primature, Martin Inouadoulgui, estime que ce comité ne se situe pas dans les registres des revendications syndicales, mais plutôt s'est mis à une officine obscurantiste servant des intérêts particuliers.
Ces imposteurs ont fait montre de leur mauvaise foi et de leur dessein macabre de servir des intérêts personnels et politiques de leur maître tapis dans l'ombre. Le Premier ministre reste disposé à discuter avec les acteurs de l'éducation nationale dans le respect mutuel, mais aucun chantage ne sera toléré comme moyen de pression.
Réaction de quelques citoyens au sujet du bras de fer entre les enseignants et le gouvernement de transition.
Le Tchad est en train de traverser une période de crise et cette sortie va encore davantage monter les tensions des grévistes.
S'ils coupent les salaires de ces pauvres messieurs, je me demande lesquels qui vont venir pour éduquer nos enfants. Moi, je demande au ministre de revoir sa décision et d'entrer en négociation avec ces hommes parce que sans eux, l'avenir de nos enfants sera vraiment en péril, quoi.
Cette même situation se vit aussi dans les institutions universitaires. Au terme du communiqué sien le 12 décembre, le ministre en charge de l'enseignement supérieur menace lui aussi de ne pas payer le salaire aux enseignants-chercheurs qui reconduisent leur grève de 2 semaines pour exiger du gouvernement l'application intégrale du pacte social signé avec les partenaires sociaux. André Koduma Djingar, dans la zone septentrionale du Tchad, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Les pays du monde entier ont unanimement adopté mercredi, lors de la COP 28 à Dubaï, un accord ouvrant la voie à l'élimination progressive des énergies fossiles, responsable de 2/3 du réchauffement climatique. Nathalie Barge a sollicité les réactions d'organisations environnementales en Afrique, continent reconnu comme le moins pollueur. Suivez.
Le texte adopté par consensus n'appelle pas directement à la sortie des énergies fossiles, comme le réclamaient de nombreux pays et organisations écologistes. Octet Abalo de Legal Response International, docteur en droit de l'environnement au Togo, a participé à la conférence à Dubaï. Elle porte un regard positif sur l'accord.
L'adoption par consensus des grandes décisions telles que les tests sur les pertes et préjudices, sur l'objectif global d'adaptation et sur le bilan mondial traduit la reconnaissance par tous les États du monde entier de la situation particulière des pays considérés comme vulnérables face aux phénomènes climatiques et il reste à croiser les doigts pour que les pays parties mettent en œuvre leur engagement mais aussi pour que l'équité soit au cœur des processus futurs.
L'accord de la COP 28 appelle à s'éloigner des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Plusieurs observateurs ont toutefois remarqué que certaines formulations ambiguës permettent à chacun d'y trouver son compte. L'environnementaliste burkinabé Zainabou Segda a également participé à la conférence sur le climat à Dubaï.
Si les pays développés sont en train de refuser de lâcher les énergies fossiles et en même temps de demander aux pays en voie de développement d'aller vers une transition zéro en fossiles, c'est contradictoire et c'est difficile, c'est invivable pour les pays en voie de développement. Si nous devons nous cantonner à faire du vert sans financement, on ne pourra pas bouger.
Le texte de la COP 28 appelle à tripler les capacités d'énergie renouvelable, doubler le rythme d'amélioration énergétique d'ici 2030 et accélérer les technologies zéro et bas carbone. Plusieurs pays africains ont investi dans l'énergie verte comme le Burkina Faso qui a déjà 3 centrales solaires et ambitionne d'atteindre 30 à 40% de part en énergie renouvelable au cours de la transition énergétique. Zainabou Segda.
Je vais citer la centrale solaire de Nagrengo d'à peu près 30 mégawatts. Par exemple, ces 30 mégawatts vont servir à 25 000 ménages. Vous savez que l'accès à l'énergie est très faible, autour de 24. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et les centrales sont très importantes justement pour contribuer à ce mix énergétique parce que si on n'a pas ces centrales solaires, nous sommes obligés de continuer à utiliser l'énergie fossile.
Le chef de l'ONU Climat, Simon Stihl, a déclaré que tous les gouvernements et entreprises doivent maintenant transformer sans tarder ces engagements en résultats concrets.
Le Monde aujourd'hui avec Eric Manirakidza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lionel Runanilagahima a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.